Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand, troisième partie, livre 25e. Changement du monde. 2. Année de ma vie 1815-1816. Je suis nommé pair de France. Mon début à la tribune. Divers discours. 3. Monarchie selon la charte. 4. Louis XVIII. 5. Monsieur de Cazes. 6. Je suis rayé de la liste des ministres d'État. Je vends mes livres et ma vallée. 7. Suite de mes discours en 1817 et 1818. 8. Réunion Pied. 9. Le conservateur. 10. De la morale des intérêts matériels et de celle des devoirs. 11. Année de ma vie 1820. Mort du duc de Berry. 12. Naissance du duc de Bordeaux, les dames de la halle de Bordeaux. 13. Je fais entrer M. de Villèle et M. de Corbière dans leur premier ministère. Ma lettre au duc de Richelieu. Billet du duc de Richelieu et ma réponse. Billet de M. de Polignac. Lettre de M. de Montmorency et de M. Pasquier. Je suis nommé ambassadeur à Berlin. Je pars pour cette ambassade. Chapitre 1. Paris 1839. Changement du monde. Retomber de Bonaparte et de l'Empire à ce qui les a suivis, c'est tomber de la réalité dans le néant, du sommet d'une montagne dans un gouffre. Tout n'est-il pas terminé avec Napoléon? Aurais-je dû parler d'autre chose? Quel personnage peut intéresser en dehors de lui? De qui et de quoi peut-il être question après un pareil homme? Dante a eu seul le droit de s'associer aux grands poètes qu'il rencontre dans les régions d'une autre vie. Comment nommer Louis XVIII en place de l'empereur? Je rougis en pensant qu'il me faut nasillonner à cette heure d'une foule d'infimes créatures dont je fais partie, être douteuse et nocturne que nous fûmes d'une scène dont le large soleil avait disparu. Les bonapartistes eux-mêmes s'étaient racornis, leurs membres s'étaient repliés et contractés, l'âme manqua à l'univers nouveau sitôt que Bonaparte retira son souffle. Les objets s'effacèrent dès qu'ils ne furent plus éclairés de la lumière que leur avait donnée le relief et la couleur. Au commencement de ces mémoires, je n'eus à parler que de moi. Or, il y a toujours une sorte de primauté dans la solitude individuelle de l'homme. Ensuite, je fus environné de miracles. Ces miracles soutinrent ma voix. Mais à cette heure, plus de conquête d'Égypte, plus de batailles de Marengo, d'Austerlitz et d'Iéna, plus de retraite de Russie, plus d'invasion de la France, de prise de Paris, de retour de l'île d'Elbe, de bataille de Waterloo, de funérailles de Sainte-Hélène. Quoi donc? Des portraits à qui le génie de Molière pourrait seul donner la gravité du comique. En m'exprimant sur notre peu de valeur, j'ai serré de près ma conscience. Je me suis demandé si je ne m'étais pas incorporé par calcul à la nullité de ces temps, pour acquérir le droit de condamner les autres. Persuadé que j'étais in petto, que mon nom se lirait au milieu de toutes ces effaçures. Non, je suis convaincu que nous nous évanouirons tous. Premièrement, parce que nous n'avons pas en nous de quoi vivre. Secondement, parce que le siècle dans lequel nous commençons ou finissons nos jours n'a pas lui-même de quoi nous faire vivre. Des générations mutilées, épuisées, dédaigneuses, sans foi, vouées au néant qu'elles aiment, ne sauraient donner l'immortalité. Elles n'ont aucune puissance pour créer une renommée. Quand vous cloueriez votre oreille à leur bouche, vous n'entendriez rien. Nul son ne sort du cœur des morts. Une chose cependant me frappe. Le petit monde dans lequel j'entre à présent était supérieur au monde qui lui a succédé en 1830. Nous étions des géants en comparaison de la société de Ciron qui s'est engendrée. La Restauration offre du moins un point où l'on peut retrouver de l'importance. Après la dignité d'un seul homme, cet homme passé, renaquit la dignité des hommes. Si le despotisme a été remplacé par la liberté, si nous entendons quelque chose à l'indépendance, si nous avons perdu l'habitude de ramper, si les droits de la nature humaine ne sont plus méconnus, c'est à la Restauration que nous en sommes redevables. Aussi me jetai-je dans la mêlée pour, autant que je le pouvais, raviver l'espèce quand l'individu fut fini. Allons, poursuivons notre tâche. Descendons en gémissant jusqu'à moi et mes collègues. Vous m'avez vu au milieu de mes songes. Vous allez me voir dans mes réalités. Si l'intérêt diminue, si je tombe, lecteur, soyez juste, faites la part de mon sujet. Chapitre 2. Année de ma vie 1815-1816. Je suis nommé pair de France. Mon début à la tribune. Divers discours. Après la seconde rentrée du roi et la disparition finale de Bonaparte, le ministère étant aux mains de M. le duc d'Otrante et de M. le prince de Talleyrand, je fus nommé président du collège électoral du département du Loiret. Les élections de 1815 donnèrent au roi la chambre introuvable. Toutes les voix se portaient sur moi à Orléans, lorsque l'ordonnance qui m'appelait à la chambre des pairs m'arriva. Ma carrière d'action à peine commencée changea subitement de route. Qu'eût-elle été si j'eusse été placé dans la chambre élective? Il est assez probable que cette carrière aurait abouti, en cas de succès, au ministère de l'Intérieur, au lieu de me conduire au ministère des Affaires étrangères. Mes habitudes et mes mœurs étaient plus en rapport avec la pairie. Et quoique celle-ci me devint hostile dès le premier moment, à cause de mes opinions libérales, il est toutefois certain que mes doctrines sur la liberté de la presse et contre le vassalage des étrangers donnèrent à la noble chambre cette popularité dont elle a joui tant qu'elle souffrit mes opinions. Je reçus en arrivant le seul honneur que mes collègues m'aient jamais fait pendant mes 15 années de résidence au milieu d'eux. Je fus nommé l'un des 4 secrétaires pour la session de 1816. Lord Byron n'obtint pas plus de faveur lorsqu'il parut à la Chambre des Lords, et il s'en éloigna pour toujours. J'aurais dû rentrer dans mes déserts. Mon début à la tribune fut un discours sur l'inamovibilité des juges. Je louais le principe, mais j'en blâmais l'application immédiate. Dans la Révolution de 1830, les hommes de la gauche les plus dévoués à cette révolution voulaient suspendre pour un temps l'inamovibilité. Le 22 février 1816, le duc de Richelieu nous apporta le testament autographe de la reine. Je montai à la tribune et je dis: celui qui nous a conservé le testament de Marie-Antoinette avait acheté la terre de Montboisier. Juge de Louis XVI, il avait élevé dans cette terre un monument à la mémoire du défenseur de Louis XVI. Il avait gravé lui-même sur ce monument une épitaphe en vers français à la louange de M. de Malesherbes. Cette étonnante impartialité annonce que tout est déplacé dans le monde moral. Le 12 mars 1816, on agita la question des pensions ecclésiastiques. « Vous refuseriez, disais-je, des aliments aux pauvres vicaires qui consacrent aux autels le reste de ses jours, et vous accorderiez des pensions à Joseph Lebon, qui fit tomber tant de têtes, à François Chabot, qui demandait pour les émigrés une loi si simple qu'un enfant pût les mener à la guillotine, à Jacques Roux, lequel, refusant au temple de recevoir le testament de Louis XVI, répondit à l'infortuné monarque, « Je ne suis chargé que de te conduire à la mort. » On avait apporté à la chambre héréditaire un projet de loi relatif aux élections. Je me prononçais pour le renouvellement intégral de la Chambre des députés. Ce n'est qu'en 1824, étant ministre, que je le fis entrer dans la loi. Ce fut aussi dans ce premier discours sur la loi d'élection, en 1816, que je répondis à un adversaire « Je ne relève point ce qu'on a dit de l'Europe attentive à nos discussions. Quant à moi, messieurs, je dois sans doute au sang français qui coule dans mes veines cette impatience que j'éprouve quand, pour déterminer mon suffrage, on me parle des opinions placées hors ma patrie. Et si l'Europe civilisée voulait m'imposer la charte, j'irais vivre à Constantinople. » Le 9 avril 1816, je fis à la Chambre une proposition relative aux puissances barbaresques. La Chambre décida qu'il y avait lieu de s'en occuper. Je songeais déjà à combattre l'esclavage avant que j'eusse obtenu cette décision favorable de la pairie, qui fut la première intervention politique d'une grande puissance en faveur des Grecs. « J'ai vu, disais-je à mes collègues, les ruines de Carthage. J'ai rencontré, parmi ces ruines, les successeurs de ces malheureux chrétiens pour la délivrance desquels Saint Louis fit le sacrifice de sa vie. La philosophie pourra prendre sa part de la gloire attachée au succès de ma proposition et se vanter d'avoir obtenu, dans un siècle de lumière, ce que la religion tenta inutilement dans un siècle de ténèbres. » J'étais placé dans une assemblée où ma parole, les trois quarts du temps, tournait contre moi. On peut remuer une chambre populaire. Une chambre aristocratique est sourde. Sans tribune, à huis clos devant des vieillards, reste desséché de la vieille monarchie, de la Révolution et de l'Empire, ce qui sortait du ton le plus commun paraissait folie. Un jour, le premier rang des fauteuils, tout près de la tribune, était rempli de respectables pères, plus sourds les uns que les autres, la tête penchée en avant et tenant à l'oreille un cornet dont l'embouchure était dirigée vers la tribune. Je les endormis, ce qui est bien naturel. Un d'eux laissa tomber son cornet. Son voisin, réveillé par la chute, voulut ramasser poliment le cornet de son confrère. Il tomba. Le mal fut que je me pris à rire, quoique je parlasse alors pathétiquement sur je ne sais plus quel sujet d'humanité. Les orateurs qui réussissaient dans cette chambre étaient ceux qui parlaient sans idée, d'un ton égal et monotone, ou qui ne trouvaient de sensibilité que pour s'attendrir sur les pauvres ministres. M. de Lally-Tollendal tonnait en faveur des libertés publiques. Il faisait retentir les voûtes de notre solitude de l'éloge de trois ou quatre lords de la chancellerie anglaise. « Ses aïeux, disait-il. » Quand son panégyrique de la liberté de la presse était terminé, arrivait un « mais » fondé sur des « circonstances », lequel « mais » nous laissait l'honneur sauf, sous l'utile surveillance de la censure. La Restauration donna un mouvement aux intelligences. Elle délivra la pensée comprimée par Bonaparte. L'esprit, comme une cariatide déchargée de l'architecture qui lui courbait le front, releva la tête. L'Empire avait frappé la France de mutisme. La liberté restaurée la toucha et lui rendit la parole. Il se trouva une multitude de talents de tribune qui reprirent les choses où les Mirabeau et les Casalès les avaient laissées. Et la Révolution continua son cours. Chapitre 3 Monarchie selon la charte. Mes travaux ne se bornaient pas à la tribune, si nouvelle pour moi. Épouvanté des systèmes que l'on embrassait et de l'ignorance de la France sur les principes du gouvernement représentatif, j'écrivais et je faisais imprimer la monarchie selon la charte. Cette publication a été une des grandes époques de ma vie politique. Elle me fit prendre rang parmi les publicistes. Elle servit à fixer l'opinion sur la nature de notre gouvernement. Les journaux anglais portèrent cet écrit au nu. Parmi nous, l'abbé Morellet même ne revenait pas de la métamorphose de mon style et de la précision dogmatique des vérités. La monarchie selon la charte est un catéchisme constitutionnel. C'est là qu'on a puisé la plupart des propositions que l'on avance comme nouvelles aujourd'hui. Ainsi ce principe que le roi règne et ne gouverne pas se trouve tout entier dans les chapitres 4, 5, 6 et 7 sur la prérogative royale. Les principes constitutionnels étant posés dans la première partie de la monarchie selon la charte, j'examine dans la seconde les systèmes des trois ministères qui jusqu'alors s'étaient succédés depuis 1814 jusqu'à 1816. Dans cette partie se rencontrent des prédictions depuis trop vérifiées et des expositions de doctrines alors cachées. On lit ces mots, chapitre 26, deuxième partie. Il passe pour constant dans un certain parti qu'une révolution de la nature de la nôtre ne peut finir que par un changement de dynastie. D'autres, plus modérés, disent par un changement dans l'ordre de successibilité à la couronne. Comme je terminais mon ouvrage, parut l'ordonnance du 5 septembre 1816. Cette mesure dispersait le peu de royalistes rassemblés pour reconstruire la monarchie légitime. Je me hâtais d'écrire le post-scriptum qui fit faire explosion à la colère de M. le duc de Richelieu et du favori de Louis XVIII, M. de Cazes. Le post-scriptum ajouté, je courus chez M. le Normand, mon libraire. Je trouvai en arrivant des alguazils et un commissaire de police qui instrumentaient. Ils avaient saisi des paquets et apposé des scellés. Je n'avais pas bravé Bonaparte pour être intimidé par M. de Cazes. Je m'opposais à la saisie. Je déclarai, comme Français libre et comme pair de France, que je ne céderais qu'à la force. La force arriva et je me retirai. Je me rendis le 18 septembre chez messieurs Louis-Marthe Mesnier et son collègue, notaires royaux. Je protestai à leur étude et je les requis de consigner ma déclaration du fait de l'arrestation de mon ouvrage, voulant assurer par cette protestation les droits des citoyens français. Monsieur Baude m'a imité en 1830. Je me trouvai engagé ensuite dans une correspondance assez longue avec monsieur le chancelier, monsieur le ministre de la police et monsieur le procureur général Bellard jusqu'au 9 novembre, jour que le chancelier m'annonça l'ordonnance rendue en ma faveur par le tribunal de première instance, laquelle me remit en possession de mon ouvrage saisi. Dans une de ses lettres, monsieur le chancelier me mandait qu'il avait été désolé de voir le mécontentement que le roi avait exprimé publiquement de mon ouvrage. Ce mécontentement venait des chapitres où je m'élevais contre l'établissement d'un ministre de la police générale dans un pays constitutionnel. Chapitre 4 Louis XVIII. Dans mon récit de voyage de Gand, vous avez vu ce que Louis XVIII valait comme fils de Hugues Capet. Dans mon écrit « Le roi est mort, vive le roi !» j'ai dit les qualités réelles de ce prince. Mais l'homme n'est pas un et simple. pourquoi y a-t-il si peu de portraits fidèles? Parce qu'on a fait poser le modèle à telle époque de sa vie. 10 ans après, le portrait ne ressemble plus. Louis XVIII n'apercevait pas loin les objets devant lui ni autour de lui. Tout lui semblait beau ou laid d'après l'angle de son regard. Atteint de son siècle, il est à craindre que la religion ne fût pour le roi très chrétien qu'un élixir propre à l'amalgame des drogues de quoi se compose la royauté. L'imagination libertine qu'il avait reçue de son grand-père aurait pu inspirer quelque défiance de ses entreprises. Mais il se connaissait, et quand il parlait d'une manière affirmative, il se vantait en se raillant de lui-même. Je lui parlais un jour de la nécessité d'un nouveau mariage pour M. le duc de Bourbon, afin de rappeler la race des Condé à la vie. Il approuvait fort cette idée, quoiqu'il ne se souciât guère de la dite résurrection. Mais à ce propos, il me parla de M. le comte d'Artois et me dit « Mon frère pourrait se remarier sans rien changer à la succession au trône. Il ne ferait que des cadets. Pour moi, je ne ferais que des aînés. Je ne veux point déshériter M. le duc d'Angoulême. » Il se rengorgea d'un air capable et goguenard. Mais je ne prétendais disputer au roi aucune puissance. Égoïste et sans préjugés, Louis XVIII voulait sa tranquillité à tout prix. Il soutenait ses ministres tant qu'ils avaient la majorité. Il les renvoyait aussitôt que cette majorité était ébranlée et que son repos pouvait être dérangé. Il ne balançait pas à reculer dès que, pour obtenir la victoire, il eût fallu faire un pas en avant. Sa grandeur était de la patience. Il n'allait pas aux événements. Les événements venaient à lui. Sans être cruel, ce roi n'était pas humain. Les catastrophes tragiques ne l'étonnaient ni ne le touchaient pas. Il se contenta de dire au duc de Berry, qui s'excusait d'avoir eu le malheur de troubler par sa mort le sommeil du roi, « J'ai fait ma nuit ». Pourtant, cet homme tranquille, lorsqu'il était contrarié, entrait dans d'horribles colères. Enfin, ce prince si froid, si insensible, avait des attachements qui ressemblaient à des passions. Ainsi se succédèrent, dans son intimité, le comte d'Avaray, M. de Blacas, M. de Cazes, Mme de Balbi, Mme du Quélat. Toutes ces personnes aimées étaient des favoris. Malheureusement, elles ont entre leurs mains beaucoup trop de lettres. Louis XVIII nous apparut dans toute la profondeur des traditions historiques. Il se montra avec le favoritisme des anciennes royautés. Se fait-il dans le cœur des monarques isolés un vide qu'ils remplissent avec le premier objet qu'ils trouvent? Est-ce sympathie, affinité d'une nature analogue à la leur? Est-ce une amitié qui leur tombe du ciel pour consoler leur grandeur? Est-ce un penchant pour un esclave qui se donne corps et âme, devant lequel on ne se cache de rien, esclave qui devient un vêtement, un jouet, une idée fixe liée à tous les sentiments, à tous les goûts, à tous les caprices de celui qu'elle a soumis et qu'elle tient sous l'empire d'une fascination invincible? Plus le favori a été bas et intime, moins on le peut renvoyer. Parce qu'il est en possession de secrets qui feraient rougir s'ils étaient divulgués. Se préférer puise une double force dans sa turpitude et dans les faiblesses de son maître. Quand le favori est par hasard un grand homme, comme l'obsesseur Richelieu ou l'irrenvoyable Mazarin, les nations, en le détestant, profitent de sa gloire ou de sa puissance. Elles ne font que changer un misérable roi de droit pour un illustre roi de fait. Chapitre 5. M. de Cazes. Aussitôt que M. de Cazes fut nommé ministre, les voitures encombrèrent le soir le quai Malaquais pour déposer dans le salon du parvenu ce qu'il y avait de plus noble dans le faubourg Saint-Germain. le français aura beau faire, il ne sera jamais qu'un courtisan. N'importe de qui, pourvu que ce soit un puissant du jour. Il se forma bientôt, en faveur du nouveau favori, une coalition formidable de bêtises. Dans la société démocratique, bavardez de liberté, déclarez que vous voyez la marche du genre humain et l'avenir des choses, en ajoutant à vos discours quelques croix d'honneur, et vous êtes sûr de votre place. Dans la société aristocratique, jouez au whist, débitez d'un air grave et profond des lieux communs et des bons mots arrangés d'avance, et la fortune de votre génie est assurée. Compatriote de Murat, mais de Murat sans royaume, M. Decazes nous était venu de la mère de Napoléon. Il était familier, obligeant, jamais insolent. Il me voulait du bien, je ne sais pourquoi je ne m'en souciais pas. De là vint le commencement de mes disgrâces. Cela devait m'apprendre qu'on ne doit jamais manquer de respect à un favori. Le roi le combla de bienfaits et de crédits et le maria dans la suite à une personne très bien née, fille de M. de Saint-Aulaire. Il est vrai que M. Decazes servait trop bien la royauté. Ce fut lui qui déterra le maréchal Ney dans les montagnes d'Auvergne où il s'était caché. Fidèle aux inspirations de son trône, Louis XVIII disait de M. Decazes « Je l'élèverai si haut qu'il fera envie au plus grand seigneur. » Ce mot, emprunté d'un autre roi, n'était qu'un anachronisme. Pour élever les autres, il faut être sûr de ne pas descendre. Or, au temps où Louis XVIII était arrivé, qu'était-ce que les monarques? S'ils pouvaient encore faire la fortune d'un homme, ils ne pouvaient en faire la grandeur. Ils n'étaient plus que les banquiers de leurs favoris. Madame Princetot, sœur de M. Decazes, était une agréable, modeste et excellente personne. Le roi s'en était amouraché en perspective. M. Decazes, le père, que je vis dans la salle du trône, en habit habillé, l'épée au côté, chapeau sous le bras, n'eut cependant aucun succès. Enfin, la mort de M. le duc de Berry accrut les inimitiés de part et d'autre et amena la chute du favori. J'ai dit que les pieds lui glissèrent dans le sang. Ce qui ne signifie pas, à Dieu ne plaise, qu'il fut coupable du meurtre, mais qu'il tomba dans la mare rougie qui se forma sous le couteau de Louvel. Chapitre 6. Je suis rayé de la liste des ministres d'État. Je vends mes livres et ma vallée. J'avais résisté à la saisie de la monarchie selon la charte pour éclairer la royauté abusée et pour soutenir la liberté de la pensée et de la presse. J'avais embrassé franchement nos institutions et j'y suis resté fidèle. Ces tracasseries passées, je demeurais saignant des blessures qu'on m'avait faites à l'apparition de ma brochure. Je ne pris pas possession de ma carrière politique sans porter les cicatrices des coups que je reçus en entrant dans cette carrière. Je m'y sentais mal, je n'y pouvais respirer. Peu de temps après, une ordonnance contresignée Richelieu me raya de la liste des ministres d'État et je fus privé d'une place réputée jusqu'alors inamovible. Elle m'avait été donnée à Gand, et la pension attachée à cette place me fut retirée. La main qui avait pris Fouché me frappa. J'ai eu l'honneur d'être dépouillé 3 fois pour la légitimité. La première, pour avoir suivi les fils de Saint-Louis dans leur exil. La seconde, pour avoir écrit en faveur des principes de la monarchie octroyée. La troisième, pour m'être tu sur une loi funeste au moment que je venais de faire triompher nos armes. la campagne d'Espagne avait rendu des soldats au drapeau blanc. Et si j'eusse été maintenu au pouvoir, j'aurais reporté nos frontières aux rives du Rhin. Ma nature me rendit parfaitement insensible à la perte de mes appointements. J'en fus quitte pour me remettre à pied et pour aller, les jours de pluie, en fiacre à la chambre des pairs. Dans mon équipage populaire, sous la protection de la canaille qui roulait autour de moi, je rentrais dans les droits des prolétaires dont je fais partie. Du haut de mon fiacre, je dominais le train des rois. Je fus obligé de vendre mes livres. M. Merlin les exposa à la criée, à la salle Sylvestre, rue des Bons-Enfants. Je ne gardais qu'un petit Homère grec, à la marge duquel se trouvaient des essais de traduction et des remarques écrites de ma main. Bientôt, il me fallut tailler dans le vif. Je demandai à M. le ministre de l'Intérieur la permission de mettre en loterie ma maison de campagne. La loterie fut ouverte chez M. Denis, notaire. Il y avait 90 billets à 1 000 francs chaque. Les numéros ne furent point pris par les royalistes. Madame la duchesse d'Orléans, douairière, prit 3 numéros. Mon ami M. Lainé, ministre de l'Intérieur, qui avait contresigné l'ordonnance du 5 septembre et consenti dans le conseil à ma radiation, prit sous un faux nom un 4e billet. L'argent fut rendu aux engagistes. Toutefois, M. Lainé refusa de retirer ses 1 000 francs. Il les laissa au notaire pour les pauvres. Peu de temps après, ma vallée aux loups fut vendue, comme on vend les meubles des pauvres, sur la place du Châtelet. Je souffris beaucoup de cette vente. Je m'étais attaché à mes arbres, plantés et grandis, pour ainsi dire, dans mes souvenirs. La mise à prix était de 50 000 francs. Elle fut couverte par M. le vicomte de Montmorency, qui seul osa mettre une surenchère de 100 francs. La vallée lui resta. Il a depuis habité ma retraite. Il n'est pas bon de se mêler à ma fortune. Cet homme de vertu n'est plus. Chapitre 7. Suite de mes discours en 1817 et 1818. Après la publication de la monarchie selon la charte et à l'ouverture de la nouvelle session au mois de novembre 1816, je continuai mes combats. Je fis à la Chambre des pairs, dans la séance du 23 de ce mois, une proposition tendante à ce que le roi fût humblement supplié de faire examiner ce qui s'était passé aux dernières élections. La corruption et la violence du ministère dans ces élections étaient flagrantes. Dans mon opinion, sur le projet de loi relatif aux finances, 21 mars 1817, je m'élevais contre le titre 11 de ce projet. Il s'agissait des forêts de l'État que l'on prétendait affecter à la caisse d'amortissement et dont on voulait vendre ensuite 150 000 hectares. Ces forêts se composaient de 3 sortes de propriétés: les anciens domaines de la couronne, quelques commanderies de l'ordre de Malte et le reste des biens de l'Église. Je ne sais pourquoi, même aujourd'hui, je trouve un intérêt triste dans mes paroles. Elles ont quelque ressemblance avec ces mémoires. N'en déplaise à ceux qui n'ont administré que dans nos troubles, ce n'est pas le gage matériel, c'est la morale d'un peuple qui fait le crédit public. Les propriétaires nouveaux feront-ils valoir les titres de leurs propriétés nouvelles? On leur citera, pour les dépouiller, des héritages de 9 siècles enlevés à leurs anciens possesseurs. Au lieu de ces immuables patrimoines, où la même famille survivait à la race des chênes, vous aurez des propriétés mobiles, où les roseaux auront à peine le temps de naître et de mourir avant qu'elles aient changé de maître. Les foyers cesseront d'être les gardiens des mœurs domestiques. Ils perdront leur autorité vénérable. chemin de passage ouvert à tout venant, ils ne seront plus consacrés par le siège de l'aïeul et par le berceau du nouveau-né. Père de France, c'est votre cause que je plaide ici, et non la mienne. Je vous parle pour l'intérêt de vos enfants. Moi, je n'aurai rien à démêler avec la postérité. Je n'ai point de fils. J'ai perdu le champ de mon père, et quelques arbres que j'ai plantés ne seront bientôt plus à moi. Chapitre 8. Réunion pied. Par la ressemblance des opinions, alors très vives, il s'était établi une camaraderie entre les minorités des deux chambres. La France apprenait le gouvernement représentatif. Comme j'avais la sottise de le prendre à la lettre, et d'en faire, à mon dame, une véritable passion, je soutenais ceux qui l'adoptaient sans m'embarrasser s'ils n'entraient pas dans leur opposition plus de motifs humains que d'amour pur, comme celui que j'éprouvais pour la charte. Non que je fusse un niais, mais j'étais idolâtre de madame, et j'aurais traversé les flammes pour l'emporter dans mes bras. Ce fut dans cet accès de constitution que je connus M. de Villèle, en 1816. Il était plus calme, il surmontait son ardeur. Il prétendait aussi conquérir la liberté, mais il en faisait le siège en règle. Il ouvrait méthodiquement la tranchée. Moi, qui voulais enlever d'assaut la place, je grimpais à l'escalade et j'étais souvent renversé dans le fossé. Je rencontrai pour la première fois M. de Villèle chez Mme la Duchesse de Lévis. Il devint le chef de l'opposition royaliste dans la chambre élective, comme je l'étais dans la chambre héréditaire. Il avait pour ami son collègue M. de Corbière. Celui-ci ne le quittait plus, et l'on disait Villèle et Corbière, comme on dit Oreste et Pylade, Euryale et Nisus. Entrer dans de fastidieux détails pour des personnages dont on ne saura pas le nom demain serait d'une vanité idiote. D'obscurs et ennuyeux remuements qu'on croit d'un intérêt immense et qui n'intéressent personne. Des tripotages passés qui n'ont déterminé aucun événement majeur doivent être laissés à ces béats heureux, lesquels se figurent être ou avoir été l'objet de l'attention de la terre. Il y avait pourtant des moments d'orgueil où mes démêlés avec M. de Villèle me paraissaient être à moi-même les dissensions de Sylla et de Marius, de César et de Pompée. Avec les autres membres de l'opposition, nous allions assez souvent rue Thérèse, passer la soirée en délibération chez M. Pied. Nous arrivions extrêmement laids et nous nous asseyions en rond autour d'un salon éclairé d'une lampe qui filait. Dans ce brouillard législatif, nous parlions de la loi présentée, de la motion à faire, du camarade apporté au secrétariat, à la questure, aux diverses commissions. On ramponnait de toutes parts. Nous ne ressemblions pas mal aux assemblées des premiers fidèles, peintes par les ennemis de la foi. Nous débitions les plus mauvaises nouvelles. Nous disions que les affaires allaient changer de face, que Rome serait troublée par des divisions, que nos armées seraient défaites. M. de Villèle écoutait, résumait et ne concluait point. C'était un grand aideur d'affaires. Marin circonspect, il ne mettait jamais en mer pendant la tempête. Et s'il entrait avec dextérité dans un port connu, il n'aurait jamais découvert le nouveau monde. Je remarquai souvent, à propos de nos discussions sur la vente des biens du clergé, que les plus chrétiens d'entre nous étaient les plus ardents à défendre les doctrines constitutionnelles. La religion est la source de la liberté. À Rome, le flamen dialis ne portait qu'un anneau creux au doigt, parce qu'un anneau plein avait quelque chose d'une chaîne. Dans son vêtement et sur sa tête, le pontife de Jupiter ne devait souffrir aucun nœud. Après la séance, M. de Villèle se retirait, accompagné de M. de Corbière. J'étudiais beaucoup d'individus, j'apprenais beaucoup de choses, je m'occupais de beaucoup d'intérêts dans ces réunions. Les finances, que j'avais toujours su, l'armée, la justice, l'administration, m'initiaient à leurs éléments. Je sortais de ces conférences un peu plus homme d'État et un peu plus persuadé de la pauvreté de toute cette science. Le long de la nuit, dans mon demi-sommeil, j'apercevais les diverses attitudes des têtes chauves, les diverses expressions des figures de ces Solons peu soignés et mal accompagnés de leur corps. C'était bien vénérable, assurément. Mais je préférais l'hirondelle qui me réveillait dans ma jeunesse et les muses qui remplissaient mes songes, les rayons de l'aurore qui, frappant un cygne, faisaient tomber l'ombre de ces blancs oiseaux sur une vague d'or, le soleil levant qui m'apparaissait en Syrie dans la tige d'un palmier comme le nid du phénix me plaisait mieux. Chapitre 9. Le conservateur. Je sentais que mes combats de tribune, dans une chambre fermée et au milieu d'une assemblée qui m'était peu favorable, restaient inutiles à la victoire, et qu'il me fallait avoir une autre arme. La censure étant établie sur les feuilles périodiques quotidiennes, je ne pouvais remplir mon dessein qu'au moyen d'une feuille libre, semi-quotidienne, à l'aide de laquelle j'attaquerai à la fois le système des ministres et les opinions de l'extrême gauche exprimées dans la Minerve par M. Étienne. J'étais à Noisiel, chez Mme la Duchesse de Lévis, dans l'été de 1818, lorsque mon libraire, M. Lenormand, me vint voir. Je lui fis part de l'idée qui m'occupait. Il prit feu, s'offrit à courir tous les risques et se chargea de tous les frais. Je parlais à mes amis, messieurs de Bonald et de Lamennais, je leur demandais s'ils voulaient s'associer avec moi. Ils y consentirent, et le journal ne tarda pas à paraître sous le nom de « Conservateur ». La révolution opérée par ce journal fut inouïe. En France, il changea la majorité dans les chambres. À l'étranger, il transforma l'esprit des cabinets. Ainsi les royalistes me durent l'avantage de sortir du néant dans lequel ils étaient tombés auprès des peuples et des rois. Je mis la plume à la main aux plus grandes familles de France. J'affublai en journaliste les Montmorency et les Lévis. Je convoquai l'arrière-ban. Je fis marcher la féodalité au secours de la liberté de la presse. J'avais réuni les hommes les plus éclatants du parti royaliste. Messieurs de Villèle, de Corbière, de Vitrolles, de Castelbajac, etc. Je ne pouvais m'empêcher de bénir la Providence toutes les fois que j'étendais la robe rouge d'un prince de l'Église sur le conservateur pour lui servir de couverture, et que j'avais le plaisir de lire un article signé en toutes lettres, le cardinal de la Luzerne. Mais il arriva qu'après avoir mené mes chevaliers à la croisade constitutionnelle, aussitôt qu'ils eurent conquis le pouvoir par la délivrance de la liberté, aussitôt qu'ils furent devenus princes d'Édesse, d'Antioche, de Damas, ils s'enfermèrent dans leurs nouveaux états avec Léonore d'Aquitaine et me laissèrent me morfondre au pied de Jérusalem, dont les infidèles avaient repris le saint tombeau. Ma polémique commença dans le Conservateur et dura depuis 1818 jusqu'en 1820, c'est-à-dire jusqu'au rétablissement de la censure, dont le prétexte fut la mort du duc de Berry. À cette première époque de ma polémique, je culbutai l'ancien ministère et fis entrer M. de Villèle au pouvoir. Je parlai immédiatement après les 100 jours. Je fixai alors l'éducation constitutionnelle des royalistes. Après 1824, quand je repris la plume dans des brochures et dans le journal des débats, les positions étaient changées. Que m'importaient pourtant ces futiles misères à moi qui n'ai jamais cru au temps où je vivais, à moi qui appartenais au passé, à moi sans foi dans les rois, sans conviction à l'égard des peuples, à moi qui ne me suis jamais soucié de rien, excepté des songes, à condition encore qu'ils ne durent qu'une nuit. » Le premier article du Conservateur peint la position des choses au moment où je descendis dans la lice. Pendant les 2 années que dura ce journal, j'eus successivement à traiter des accidents du jour et à examiner des intérêts considérables. J'eus occasion de relever les lâchetés de cette correspondance privée que la police de Paris publiait à Londres. Ces correspondances privées pouvaient calomnier, mais elles ne pouvaient déshonorer. Ce qui est vil n'a pas le pouvoir d'avilir. L'honneur seul peut infliger le déshonneur. Calomniateurs anonymes, disais-je, ayez le courage de dire qui vous êtes. Un peu de honte est bientôt passé. Ajoutez votre nom à vos articles, ce ne sera qu'un mot méprisable de plus. Je me moquais quelquefois des ministres et je donnais cours à ce penchant ironique que j'ai toujours réprouvé en moi. Enfin, sous la date du 5 décembre 1818, le Conservateur contenait un article sérieux sur la morale des intérêts et sur celle des devoirs. C'est de cet article qui fit du bruit qu'est née la phraséologie des intérêts moraux et des intérêts matériels, mise d'abord en avant par moi, adoptée ensuite par tout le monde. Le voici fort abrégé. Il s'élève au-dessus de la portée d'un journal, et c'est un de mes ouvrages auxquels ma raison attache quelque valeur. Il n'a point vieilli parce que les idées qu'il renferme sont de tous les temps.